Bonjour à tous. Ce matin, je trouve que le Seigneur nous a conduits. Vous allez voir le texte. Alors, c'est pas vraiment un texte que j'ai choisi spécifiquement. Donc, nous commençons notre étude des lettres de Jean. Donc Yann a fait l'introduction dimanche dernier, donc c'est moi qui commence donc avec ces quatre premiers versets de la première lettre, du premier chapitre de cette lettre de Jean. Et vous allez voir que ce matin, je pense que le Seigneur veut nous parler de témoignage, veut nous parler de ce que c'est que d'être chrétien, de témoigner de qui il est et de ce qu'il a fait dans chacune de nos vies. Je retiens la prière de Paul tout à l'heure, qui nous disait, qui citait donc ce verset où Dieu nous donne un nom que lui seul connaît. Et Dieu fait des choses différentes dans chacune de nos vies. Et on va lire ce texte où Jean va parler de ce que le Seigneur a été, de ce que le Seigneur est dans sa vie au moment où il écrit. Alors Luc a lu le prologue de l'évangile de Jean. Et ce texte est un écho, un parallèle à ce prologue. Donc je le lis dans la traduction du Semeur. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Il y a différentes façons de parler de Dieu. Parfois, on parle de dogmes ou de rituels. Donc, c'est un peu ce que Luc a vécu lors du dernier enterrement. Un rituel qui présente ce que c'est que l'Église. Parfois, on parle aussi de Dieu comme d'une expérience de vie, quelque chose qu'on a vécu. Et ce qui m'a parlé personnellement dans ce texte, c'est la façon dont les deux ici sont reliés, dont la façon dont la vérité de la révélation, cette vérité rejoint l'expérience de vie, et ici l'expérience que Jean a vécue. Et ces quatre premiers versets sont un témoignage à la vie. C'est ce qui est répété plusieurs fois. Le mot vie revient de nombreuses fois dans ce texte. Et Jean nous dit, celui qui est la vie s'est manifesté. Celui qui est la vie s'est manifesté. Est-ce que nous pourrions imaginer dire cela de quelqu'un que nous avons rencontré? Quand on pense à cette phrase, on se dit, mais Jean rencontre un homme et il dit, cet homme est la vie manifestée. Cet homme, il devait être incroyable. Il devait briller, il devait avoir une présence jamais vue. La vie manifestée, qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Et pourtant, nous savons que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Que pendant 30 ans, eh bien, il a vécu une vie d'homme, de fils, de frère, de charpentier, un homme qui a travaillé et a gagné son pain à la sueur de son front. Et pourtant, Jean en parle comme de la vie manifestée. Il nous parle de son message. Le premier verset, c'est « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. » Et c'est vrai que Jésus était à la fois le message et le messager. Et quand on pense à, eh bien, quel est ce message qui a tellement marqué Jean, et on peut essayer de réfléchir à ce que Jésus a enseigné au début, eh bien, il enseigne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché et vous devez changer de vie. Un message qui n'est pas si différent de celui de Jean-Baptiste. Et puis, ce message va devenir que ce royaume qui s'est approché, ce royaume, le royaume de Dieu, et finalement, ce royaume est là. Le royaume est présent ici et maintenant. Ce royaume s'est incarné. Ce royaume est devenu accessible. Celui qui suit Jésus, eh bien, il peut entrer dans le règne de Dieu. Et puis, à la fin, son message devient la mort. La mort a été vaincue. Et la vie éternelle vous est donnée ici et maintenant. Et Jean témoigne de ce que lui a vécu. Et vous avez remarqué que dans ce passage-là, Jean va répéter plusieurs fois ce Jésus, cette vie manifestée, je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai contemplé, je l'ai touché. Jean nous parle de son expérience à lui, une expérience sensorielle, une expérience spirituelle aussi. Et nous savons que les hommes qui nous entourent sont avides d'expériences spirituelles. Et dans le grand marché de la spiritualité que nous vivons, et qui, je pense, a toujours existé à plus ou moins grande échelle, mais que nous vivons en particulier, eh bien, des expériences mystiques, spirituelles, sensorielles, ce que vous voulez, eh bien, sont à portée de clic, à portée de main. Mais ici, Jean parle d'une expérience qui est non seulement spirituel, mais qui est aussi une expérience incarnée. Jean a touché, Jean a vécu avec, il a, il a marché, il a peiné, il a mangé, il a bu avec ce Jésus dont il parle. Ici, il n'y a pas de séparation entre un monde spirituel et un monde matériel. Ces deux dimensions sont réunies. Et bien sûr, quand nous parlons de témoignage, nous ne pouvons pas dire la même chose que Jean. Nous n'avons pas rencontré physiquement le Christ. Mais par contre, nous pouvons, et c'est ce que Lise a fait ce matin, nous pouvons témoigner de notre expérience, témoigner de notre rencontre. Et nous savons que ce témoignage de ce que nous avons vécu ne peut pas être contredit. Bien sûr, les idées peuvent être confrontées, les théories, les dogmes peuvent être contredits, confrontés, niés, mais l'expérience que chacun d'entre nous vivons, eh bien, nous appartient. Malheureusement, nous savons aussi que dans notre époque postmoderne, chacun a son expérience, chacun a son à sa vérité. Et c'est pourquoi ce texte me paraît important, parce que ce texte nous parle à la fois d'une expérience vécue et à la fois d'une vérité révélée. La vie s'est manifestée pour Jean, une vie qui lui a été révélée, une autorité qui s'est manifestée, une autorité qui a été validée par tous les miracles que Jean a pu auxquels il a pu assister, une vérité théologique. Qui s'est incarné dans une expérience concrète. Et en lisant ce texte, je me suis demandé, mais alors, comment est-ce que moi je parle de Dieu? Comment est-ce que je parle du Christ? Comment est-ce que je parle de la vie? Qu'est-ce que c'est finalement la vie pour moi? Et bien sûr. Naturellement, j'aurais tendance à parler de, alors peut-être oui, de théologie, de choses très abstraites, mais on le sait et on l'a vécu aussi ce matin. C'est la façon dont cette vie manifestée me rencontre. C'est ça qui permet de rencontrer, de toucher les gens. Et cette vie pour moi. Quand j'essaie de mettre des mots sur qu'est-ce qu'elle est pour moi, je me rends compte que, elle a été différentes choses à différents moments. Si je repense à mon enfance, donc pour moi aussi, cette vie s'est manifestée d'abord par la perte. Quand mon père est mort et que j'étais encore enfant, j'ai découvert que le monde instable dans lequel je vivais, eh bien, que ce monde avait un sens, que ce monde avait quelque chose qui le fondait, qu'un Dieu m'avait donné une place dans ce monde, qu'il m'avait donné une place dans son amour. Et pour moi, enfant, c'était ça la vie. Et puis, quand j'étais un jeune homme, eh bien, la vie, ça a été de découvrir que Dieu avait des bénédictions, qu'il avait un projet qui était plus grand, qui dépassait tous mes désirs et toutes mes ambitions. Pour un jeune homme, c'était pour moi, c'était ça la vie. Et puis, maintenant que je ne suis plus un jeune homme, eh bien, pour le père que je suis, la vie, c'est de savoir que si je ne maîtrise pas le futur, eh bien, ce Dieu qui m'a conduit toute ma vie, eh bien, il garde et il aime ce que mes enfants et ma famille. Et pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, la vie, c'est ça. Donc ce texte me pousse à ce que la vérité révélée rejoigne mon expérience. Et c'est de cette façon-là que je dois apprendre à en parler, même si c'est difficile. Et le texte continue avec cette expérience partagée qui nous permet de vivre la communion. Nous vous annonçons ce message à vous aussi afin que vous soyez en communion avec nous. Alors là aussi, la communion, qu'est-ce que c'est que cette communion dont Jean nous parle? Une communion, une communauté? Alors une communauté en France, ça n'a pas forcément très bonne presse. Et c'est vrai que une façon de vivre la communauté, ça peut être une façon qui exclut. D'un côté, je ne sais pas, les protestants, d'un côté les catholiques, d'un côté les chrétiens, d'un côté les musulmans, d'un côté les blancs, d'un côté les noirs, d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Les communautés qui s'excluent les unes les autres. Ça peut être aussi des communautés qui se diluent petit à petit, une espèce de communauté centrale avec la famille, une communauté un peu plus élargie avec les amis, une communauté encore un peu plus élargie avec notre région, notre nation. La communauté peut-être dans l'Église, ça pourrait être un projet commun, ça pourrait être une activité, un lieu que nous partageons. Et je me suis demandé si finalement notre communion, elle n'était pas là, une communion d'activité, une communion de choses que nous vivons ensemble. Et puis je me suis demandé, mais alors tous ceux qui faisaient partie de la communauté et qui sont partis, comment est-ce que ça remet en cause ce que c'est que notre communion et notre communauté? Et en réfléchissant à ça, j'ai fait une découverte qui va peut-être pas vous surprendre beaucoup, mais je me suis dit, mais non, en fait, finalement la communion dont Jean nous parle, elle est beaucoup plus simple que ça. Cette communion, c'est simplement l'amour. Et l'amour de 1 Corinthiens 13. L'amour l'amour qui veut faire grandir celui qui est en face de nous. L'amour pour le prochain. Le prochain, celui qui nous est proche, celui dont on est proche. C'est ça la communion dont nous parle Jean, cet amour désintéressé que nous vivons, que nous essayons de vivre dans cette petite communauté avec les gens qui décident de se joindre à ce que nous faisons. L'amour d'essayer de faire grandir. L'amour qui regarde avec bienveillance. L'amour qui espère tout. qui croit tout, qui croit que chacun d'entre nous, nous pouvons grandir, qu'aucun d'entre nous n'est enfermé dans le péché, que pour chacun d'entre nous, Dieu vient nous chercher et nous faire grandir, et que la communion, c'est que Dieu se sert des uns et des autres pour faire grandir les uns et les autres. Cette communion incarnée dans l'Église, et puis cette expérience que nous vivons, ici et maintenant, cette expérience rejoint une vérité qui la dépasse, encore une fois. Cette communion rejoint la communion avec le Père et le Fils. Cette communion, nous savons comment nous la vivons par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous met en communion avec le Père et le Fils, et nous savons que cette communion, elle nous transforme de l'intérieur, que cette communion spirituelle nous fait entrer dans une famille spirituelle. Et là encore, l'expérience vécue rencontre une expérience, une vérité révélée. Et le texte se termine en nous disant que toutes ces choses ont été écrites pour que notre joie soit complète. La communion nous fait entrer dans la joie. Une joie d'abord spirituelle. Une joie spirituelle parce que, c'est vrai, la joie, c'est le fruit de l'Esprit. C'est ce que l'Esprit crée en nous, la joie de la réconciliation avec Dieu, la joie du pardon, la joie de la présence de Dieu dans chacune de nos vies. Et puis cette joie rejoint la joie humaine de la fraternité que nous vivons, la joie de la reconnaissance pour les vies que Dieu nous donne. Et en lisant ce texte, je me suis dit que pour moi, c'était aussi un encouragement à ce que cette joie soit peut-être davantage manifestée dans ma vie. Je ne suis pas sûr que dans notre société, les chrétiens soient connus pour leur joie. Et c'est, je pense, bien dommage. Parce que c'est la joie que le Seigneur fait grandir en nous. Le dernier mot de ce passage, c'est complète. Une joie complète. Et là aussi, je me suis demandé pourquoi Jean parle d'une joie complète. Donc la joie pourrait être justement incomplète. Et pour ceux qui étaient là dimanche dernier, donc Yann nous a parlé du contexte de combat théologique dans lequel Jean écrit cette épître. Et le combat était pour la reconnaissance de qui est Christ, pleinement Dieu, pleinement homme. Et ce texte nous invite à reconnaître, à recevoir ce Christ divin et humain, à le reconnaître pleinement, à le reconnaître complètement. Et la communion est effectivement complète quand ces deux dimensions sont reçues par l'Église, par les frères et sœurs, parce que si une de ces dimensions manque, le message que le Christ nous a donné, ce message n'est pas complet. Et puis une joie complète, parce que la vérité et son incarnation sont vécues en même temps, parce que nous sommes capables de, euh, de recevoir, de vivre une expérience humaine, physique, dans ce que nous faisons, dans la façon dont nous mettons nos corps en action. Humaine complète aussi dans le sens de la façon dont nos émotions, dont notre intelligence est mise en œuvre par ce message, et puis complète parce que nous recevons la vérité et l'esprit qui la révèle en nous. Une expérience, donc une joie complète car fondée sur une réalité spirituelle et humaine. En tant que chrétien, en tant que Église, nous annonçons, nous proposons une expérience, nous proposons une communion, nous proposons une joie. Mais toutes ces expériences que nous annonçons, que nous proposons de vivre, toutes ces expériences doivent s'enraciner dans une vérité qui nous dépasse. La vie éternelle nous est donnée, la présence de Dieu remplit notre être. Son esprit nous transforme. Ces deux dimensions doivent être présentes dans ce que nous disons et dans ce que nous montrons. Donc j'espère que ce texte a pu vous encourager dans cette direction-là, et que dans notre quotidien, dans notre témoignage, cette vérité et cette incarnation soit présente, et alors notre joie sera complète. Merci.